Bonsoir à tous. Le deuxième accord de Brexit sera-t-il le bon? Réponse samedi avec le vote des députés britanniques sur le texte signé ce matin entre Londres et Bruxelles. Quel compromis sur la frontière entre Dublin et Belfast? Quel scénario désormais? Les réponses et les espoirs prudents dès le début du journal. Au sommaire également ce soir, l'armée turque qui progresse en Syrie. Damas promet de résister. Une nouvelle audition à charge contre Trump dans l'affaire ukrainienne. Nous serons à Washington. Le projet de police municipale parisienne retoquée au Sénat, le plaidoyer anti-globiche de Barbara Cassin qui est entrée aujourd'hui sous la coupole, et au téléphone sonne Fabienne, l'amour malgré le cancer.
Exactement, l'amour après la chimio, on a décidé de s'attaquer à un sujet souvent tabou, le désir, la libido, la difficulté de se réapproprier son corps, de l'aimer à nouveau, de se laisser toucher, tout ça. C'est aussi la voie de la guérison, mais c'est souvent difficile d'en parler, c'est souvent la dernière chose qu'on dit à son médecin d'ailleurs. Vos questions et témoignages 01 45 24 7000.
France Inter. Le Royaume-Uni, désuni de l'Union, sera-t-il bientôt une réalité après 46 ans de présence en Europe? En tout cas, la nouvelle est tombée à la mi-journée. Un nouvel accord de Brexit a donc été signé entre Londres et Bruxelles, le deuxième en 3 ans après celui obtenu par Theresa May, mais retoqué 3 fois, on y vient dans un instant. Avant de détailler cet accord, l'atmosphère chez vous à Bruxelles ce midi. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Le soulagement, hein.
Oui, car peu de diplomates ont parié ces dernières semaines sur un tel dénouement et on avait eu de grands sourires et de quasi-accolades entre les chefs d'État et de gouvernement. On a lu du soulagement, aussi teinté de fatigue tout de même, sur le visage du négociateur en chef Michel Barnier. Personne ne pourra dire que les Européens, restés soudés jusqu'au bout, n'auront pas tout fait pour trouver ce compromis de dernière minute, confie une source européenne. Alors ce n'est certes qu'une étape, il faut rester prudent, ont répété les 27, mais ils se félicitent, comme le président Macron, du travail accompli.
Ce qui a permis de débloquer les choses, c'est, je crois, la bonne volonté collective. C'est le fait qu'on a gardé nos objectifs politiques, on a trouvé d'autres modalités techniques qui répondent aux blocages qui étaient apparus, en particulier au Parlement britannique. Maintenant, voyons ce que les prochaines heures, les prochains jours nous diront, et on fera tout pour que les choses puissent aboutir.
Alors, l'accord maintenant, Angélique, juste et raisonnable, dit Michel Barnier, le négociateur européen, qui d'ailleurs est chargé ce soir de lancer la négociation de la nouvelle relation avec Londres. Que dit-il, cet accord signé? Les deux parties ont fait pas mal de concessions pour y arriver.
Ah oui, et une de taille, hein. Bruxelles a abandonné par exemple l'idée de ce filet de sécurité qui aurait pu maintenir l'Irlande du Nord, cette région britannique, dans le giron de l'Union européenne. Elle restera dans un territoire douanier commun avec la Grande-Bretagne. Et ce sont des douaniers britanniques qui, dans les ports et les aéroports, vont faire le tri entre une bouteille d'eau destinée par exemple au marché nord-irlandais et l'autre qui doit continuer sa route pour atterrir sur la table d'un citoyen européen de la République d'Irlande. Ce douanier se chargera de la taxer. Il y aurait aussi des garde-fous pour éviter le passage de marchandises qui ne sont pas aux normes européennes, des inspections et puis un dispositif en cas de contentieux. Mais il faudra un système de traçabilité sacrément efficace. Des concessions ont aussi été faites sur la souplesse accordée aux Britanniques dans la future relation commerciale qui, vous le disiez, restera à définir entre les deux parties.
Alors voilà pour le contenu de ce texte. Merci Angélique Bouin depuis Bruxelles. Juste et équilibré ce texte pour Jean-Claude Juncker, mais qu'il faut encore faire adopter à Londres. On y va dans un instant. D'abord, l'appel de Boris Johnson aux députés britanniques.
J'espère vraiment maintenant que mes collègues, les députés de Westminster, qui vont se rassembler et vont faire aboutir ce Brexit, pour que cet excellent accord soit mené à bien, pour que le Brexit soit adopté sans délai. Et que nous puissions nous concentrer sur les priorités du peuple britannique. Il est temps pour nous de faire ce Brexit et ensemble de travailler pour construire notre partenariat futur qui peut être incroyablement positif pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne.
Que vont choisir les députés britanniques? C'est donc toute la question. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Correspondant de France Inter à Londres. Antoine, le vote de cet accord est loin d'être gagné à Westminster.
Oui, c'est une question d'arithmétique. Je vous donne l'analyse des conservateurs modérés ce soir. C'est du 50-50. C'est ce que dit notamment Stephen Crabb, élu du Pays de Galles. Une chance sur deux, parce que si on fait les comptes, Boris Johnson a besoin du soutien de 320 députés. Il ne peut pas compter sur les 10 unionistes nord-irlandais qui refusent le texte parce qu'il oblige l'Irlande du Nord à rester alignée sur les réglementations européennes. Il ne peut pas non plus s'appuyer sur les conservateurs les plus radicaux parce qu'ils jugent son accord trop mièvre. Ils voulaient revenir aux règles de l'OMC. Anglais, ni sur les conservateurs europhiles qui, eux, refusent de quitter l'Union européenne. Bilan, il lui manque potentiellement une vingtaine de voix, peut-être plus. Pour réussir, le Premier ministre va donc devoir trouver du soutien dans les rangs de l'opposition, car même si Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, appelle à rejeter le texte parce qu'il le considère comme dangereux pour les acquis sociaux, plusieurs élus travaillistes pourraient ignorer la consigne. Une des députées des Midlands explique déjà qu'elle hésite parce qu'elle représente une zone où les Britanniques ont massivement voté en 2016 pour le Brexit.
Et si les députés ne votent pas l'accord, Antoine, que se passe-t-il ? Je sais qu'on vous a posé plein de fois la question.
En théorie, c'est très simple parce que la loi Hillary Benn votée en septembre par le Parlement oblige le gouvernement à écrire à Bruxelles pour demander un nouveau report du Brexit si aucun accord n'est validé avant samedi soir. Mais ça, c'est de la théorie parce que depuis le début, Boris Johnson explique qu'il fera les choses dans les règles, mais que le pays sortira quoi qu'il arrive le 31 octobre prochain de l'Union européenne. La situation pourrait donc rapidement basculer dans le chaos.
Séance exceptionnelle des députés britanniques samedi. Donc merci Antoine, ce qui n'est pas arrivé depuis la guerre des Malouines en 1982. Comme au diapason de l'annonce de cet accord, puis des réserves outre-Manche, la livre a gagné 1 dollar avant de reperdre tout à l'heure du terrain.
Et y aura-t-il un cessez-le-feu en Syrie ?
C'est ce que tentent d'obtenir les États-Unis à Ankara au 8e jour de l'offensive turque qui a déjà fait près de 500 morts et 300 000 civils déplacés. Le vice-président Mike Pence, américain, et le secrétaire d'État Mike Pompeo sont toujours en rendez-vous avec le président Erdogan. Et pendant ce temps, la guerre continue. L'armée turque contrôlerait désormais la moitié de la ville frontalière de Ras Al Ain, Valérie Krova, dans le nord-est de la Syrie.
Combien reste-t-il de civils à l'intérieur de Ras Al Ain ? Une partie de la population a fui l'avancée des troupes d'Ankara. Mais de nombreux habitants seraient encore dans la ville assiégée, affirment les autorités kurdes, qui font état de bombardements systématiques des convois médicaux. D'où l'appel pressant des Kurdes adressé non seulement à la coalition internationale, qui fut la partenaire des forces kurdes dans la lutte contre Daesh, mais aussi à la Russie pour qu'elle fasse pression sur la Turquie afin qu'elle accepte de laisser passer les civils et les blessés. Les Kurdes accusent par ailleurs, et pour la première fois, les forces turques d'utiliser des armes chimiques comme le napalm ou le phosphore. Ces accusations sont étayées par des photos de victimes et de bombardements. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dit pour sa part avoir recensé des blessés souffrant de brûlures à l'hôpital de Tal Tamer près de Ras Al Ain. Impossible de vérifier ces informations de manière indépendante, les ONG présentes dans le nord-est syrien ayant été contraintes de partir.
Et à Damas, Bachar el-Assad, désormais allié aux Kurdes, affirme que l'armée syrienne répondra à l'agression turque par tous les moyens légitimes. Alors que Jean-Yves Le Drian était aujourd'hui à Bagdad et à Erbil, le ministre des Affaires étrangères est venu parler des djihadistes étrangers qui sont aux mains des Kurdes, dont une soixantaine de Français qui pourraient être transférés et jugés en Irak. Actualité décidément très riche à l'étranger avec une nouvelle audition au Congrès américain, celle de l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne. Audition voulue par les élus démocrates dans le cadre de leur enquête pour une éventuelle destitution du président. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Où l'on apprend, Grégory, que dès le début de l'affaire ukrainienne que vous allez nous rappeler, Trump a mis son avocat personnel dans les pattes des diplomates.
Oui, Rudy Giuliani, vous savez, l'ex-maire de New York, l'avocat personnel de Trump, qui de plus en plus apparaît comme un personnage central dans cette affaire ukrainienne. Pourquoi ? Eh bien parce que l'ambassadeur américain auprès de l'Union, Gordon Sondland, a raconté tout à l'heure devant le Congrès américain comment Giuliani avait mis la pression aux diplomates de son pays en charge du dossier ukrainien afin qu'ils enquêtent sur la corruption dans ce pays et plus précisément sur l'entreprise gazière Burisma qui jusqu'au début de cette année employait le fils de Joe Biden. Donc, pression directe de l'avocat personnel du président, c'est en tout cas ce que dit ce diplomate, et il le dit sous serment devant la commission de la Chambre des représentants. Évidemment, maintenant, les parlementaires aimeraient bien entendre Giuliani directement, mais ce dernier fait savoir qu'il refuse pour l'instant de coopérer et de fournir les documents qui lui ont été réclamés. Giuliani, vous savez, c'est un peu comme une grenade dégoupillée, prête à faire sauter tout le monde, pour reprendre une expression de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Les démocrates, eux, accentuent encore un peu la pression, et ils espèrent pouvoir faire voter l'impeachment du président par la Chambre peut-être avant la fin de cette année, ce qui ouvrirait alors la voie à un procès en destitution devant le Sénat. Mais ça, Sébastien, c'est une toute autre histoire dont on aura, je pense, le temps de reparler.
Évidemment, merci Grégory Phillips en direct de Washington. En bref, encore la peine et les regrets du gardien du camp de concentration de Stutthof dans le nord de la Pologne, le premier hors d'Allemagne. L'ancien SS Bruno Dey y était entre août 44 et avril 45. Il avait 17 ans à l'époque, 93 aujourd'hui. Il est jugé depuis ce matin à Hambourg pour complicité de milliers de meurtres, plus de 5200 selon le parquet, sur 65 000 morts au total, essentiellement des femmes juives des pays baltes.
Il est 19h10 sur France Inter. Sébastien, une plainte pour harcèlement sexuel contre Jean-Luc Brunel.
L'agent de mannequin, accusé d'avoir été un rabatteur de jeunes femmes pour le financier américain Jeffrey Epstein, mort en prison en août. Une enquête préliminaire est ouverte depuis en France. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Et pour la première fois, une plainte concerne des faits qui ne sont pas prescrits.
Et oui, des faits qui remontent à ces dernières années, moins de 4 ans. La plaignante a écrit un courrier au parquet de Paris en début de semaine. C'est une Française âgée d'une vingtaine d'années. Alors attention, elle n'accuse pas l'agent de mannequin de viol ou agression sexuelle comme d'autres femmes, mais bien de harcèlement. Elle doit maintenant être entendue par les enquêteurs qui s'occupent de cette affaire, ceux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Cette femme est la 8e à dénoncer des faits à l'encontre de Jean-Luc Brunel en France, mais les 7 autres ont fait uniquement des signalements, c'est-à-dire qu'elles ont expliqué avoir des choses à dire aux enquêteurs sans déposer plainte, tout simplement parce qu'elles savent qu'en ce qui les concerne, les faits sont prescrits. Jean-Luc Brunel, lui, a fait savoir il y a quelques jours par la voix de son avocate qu'il conteste fermement tous ces faits, qu'il se tient à la disposition de la justice. À ce stade, le Français n'est pas recherché, pas considéré comme fugitif, mais il se fait discret, impossible, alors qu'il est de dire où il se trouve.
Personne ne l'a vu depuis juillet. Merci Ariane Grissel. Le Sénat retoque le projet de police municipale parisienne voulu depuis le début de l'année par Anne Hidalgo. Les sénateurs ont rejeté hier l'amendement qui devait permettre sa création. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Sébastien.
On voit clairement battre la campagne des municipales derrière ce rejet.
Oui, ce projet, c'est l'un des axes forts d'Anne Hidalgo depuis fin janvier. Bientôt 3400 agents placés sous le commandement de Michel Felquet, une poiture de la police embauchée par la ville, mais des agents au pouvoir limité pour qu'ils puissent contrôler la circulation ou verbaliser, il faut une loi. Et hier soir, les sénateurs socialistes tentent d'amender la loi Le Cornu, censée donner plus de pouvoir au maire, mais c'est la douche froide.
On va réserver ça à un texte ad hoc, puisque ça renvoie à 1000 autres questions. C'est pour cela que j'émettrai un avis défavorable ou, le cas échéant, une demande de retrait sur votre amendement.
C'est le ministre Sébastien Lecornu justement qui parle. Veto du gouvernement et rejet massif par les parlementaires LR et par la totalité des sénateurs En Marche, emmenés par qui ? Par Julien Bargeton, autrefois adjoint d'Hidalgo, mais aujourd'hui bras droit du candidat Benjamin Griveaux.
Elle avait 6 ans pour créer cette police municipale. Elle avait 6 ans pour demander au Parlement, au gouvernement, de faire des propositions sérieuses. Et pas celle-là, pas un seul amendement de nuit sur un texte qui n'était pas en lien directement avec cela.
En face, l'incompréhension de la ville de Paris, Colombe Brossel est maire adjointe en charge de la sécurité.
Les chiffres de la délinquance augmentent à Paris. La sécurité du quotidien se dégrade à Paris. On est prêt à prendre notre part. On fait tout ceci. Et hier, cet amendement est rejeté par le gouvernement. Ce refus est totalement incompréhensible.
La bataille de Paris qui s'exporte au Sénat et bientôt à l'Assemblée. Hidalgo voulait accélérer sur sa police municipale. Mais ni l'Élysée, ni Benjamin Griveaux ne veulent lui faire ce cadeau à 6 mois des élections.
Yael Gauze, merci. Un nouveau rebondissement dans le fiasco Xavier Dupont de Ligonnès le week-end dernier. Le procureur de la République de Nantes ouvre une enquête préliminaire pour violation du secret de l'instruction. Enquête confiée à l'IGPN, la police des polices, pour savoir d'où sont venues d'éventuelles fuites sur la pseudo-arrestation en Écosse.
Ils sont plus gros, plus hauts et souvent plus lourds.
Alors ils polluent plus que les autos classiques. Les SUV sont dans le collimateur de l'Agence internationale de l'énergie. Ces voitures au look de 4x4 sont de plus en plus nombreuses. Deuxième source d'augmentation des émissions de CO2 dans le monde entre 2010 et 2018, selon l'Agence de l'énergie, et elle menace les efforts des constructeurs pour réduire leurs émissions de dioxyde de carbone. En clair, de plus en plus d'argent investi dans les véhicules électriques, 6 millions en circulation aujourd'hui dans le monde, mais de plus en plus de SUV aussi mis sur le marché, plus de 40% des ventes. La faute au catalogue des constructeurs. Pour l'économiste spécialiste du marché automobile, Flavien Nevy, que Yann Gallic a eu au téléphone.
Quand on refait un peu l'histoire, il y a moins de 15 ans, les SUV n'existaient pas. Et à l'époque, au début des années 2000, ça allait même plus loin, puisque les 4x4 de l'époque étaient assez stigmatisés. Les personnes ne voulaient plus voir ces véhicules en ville. Et contre toute attente, les crossovers à SUV, qui sont des espèces de faux 4x4, sont apparus au milieu des années 2000 et n'ont cessé de gagner des parts de marché. Pour les constructeurs automobiles, si vous voulez, ce sont des voitures qui sont plus chères, il y a plus de marge, ils gagnent plus d'argent dessus. Donc bien sûr que les constructeurs automobiles ont intérêt à vendre des voitures plus chères et plus grosses. C'est la logique même économique des constructeurs automobiles. C'est quand même souvent des familles qui achètent ce type de véhicules qui sont plus gros, dans lesquels il y a plus de place. Dans le créneau familial, le SUV a pris la place des monospaces. Petit à petit, la part de marché du monospace a baissé au profit des crossovers et des SUV. Alors bien sûr, les constructeurs ont leur rôle à jouer pour permettre de réduire les émissions polluantes. Mais c'est quand même l'automobiliste qui, à la fin, va décider de la voiture qu'il va acheter.
Et dans le projet de budget pour l'an prochain, les députés durcissent le malus écologique. 50 euros pour les véhicules qui rejettent 110 grammes de CO2 au kilomètre, jusqu'à 12 500 euros pour des émissions au-delà de 172 grammes. L'hypermarché Casino de la Roseraie à Angers ne pourra plus ouvrir le dimanche, comme il le fait depuis la fin août, avec des caisses automatiques surveillées par une société extérieure. La justice exige que le magasin ferme à 13 heures, sous peine de 5 000 euros d'amende par jour d'infraction. On sait maintenant que ce n'était pas un ovni que certains ont vu passer au-dessus de nos têtes fin août, ou cette forme de cigare il y a 2 ans. C'était des exocomètes, comme on parle d'exoplanètes, celles qui sont nées au-delà de notre système solaire. On soupçonnait qu'elles existaient depuis des décennies. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Voici donc Borisov, repéré en Crimée par Monsieur Borisov. C'était le 30 août, dont le télescope Hubble vient de livrer une très belle image.
La dernière image en date, en fait, car depuis la fin de l'été, tous les télescopes sont à l'affût du messager de l'au-delà, dont on sait qu'on ne le reverra pas. En effet, il file à vive allure, trop vite pour que son orbite puisse être parabolique et qu'il arrive de la pouponnière des comètes aux confins de notre système solaire. Borisov le traverse, trahi par son excès de vitesse en somme. Au plus près du Soleil, le 8 décembre prochain, il ira à 162 000 km par heure. C'est incompatible avec un objet de notre système solaire. Nicolas Biver est astronome à l'Observatoire de Paris.
On ne sait pas précisément d'où il vient. Ça fait peut-être quelques centaines de milliers, voire des millions d'années qu'il voyage entre les étoiles. Il s'est peut-être échappé d'un système stellaire, d'une étoile voisine du Soleil, ou carrément il vient beaucoup plus loin, il peut venir d'un autre bras de la galaxie.
Et pourtant, Borisov ressemble à une comète classique.
Pour l'instant, il ressemble à une comète un petit peu ordinaire, c'est-à-dire comme une étoile floue, quoi, avec un nuage de poussière et puis un début de queue de poussière derrière. On n'a pas de supposition que ce soit une intelligence artificielle, ça ressemble beaucoup à une comète ordinaire. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un messager, entre guillemets, enfin, ou une trace de quelque chose qui s'est formé dans un autre système stellaire et de pouvoir le comparer à ce qu'il y a dans notre système solaire.
Même quand il sera au plus près de nous, 300 millions de kilomètres dans quelques semaines, Borisov restera loin, trop loin, vu sa petite taille, 400 mètres, pour qu'on puisse tout savoir de lui. Jusqu'ici, les deux composés détectés, de l'acide cyanhydrique et du dicarbone, le font ressembler donc aux comètes classiques. Ça signifie que les processus de formation seraient semblables ici et ailleurs. Un pas de plus vers la possibilité de la vie dans l'au-delà.
Vous me faites peur, Sophie Becherel. Surtout qu'il y a des comètes qui viennent de la pouponnière. Alors, c'est fou. Borisov.
Et la galaxie a des bras.
Voilà. Elle est à voir, Borisov, sur franceinter.fr. Merci, Sophie Becherel. Lui aussi, dans son domaine, est un peu un ovni. Roger Federer, le Suisse aux 20 titres en grand chelem. Il sera bien sur les cours de Roland-Garros en mai. Les fans seront contents. Il sera aussi au JO de Tokyo l'été prochain. L'or olympique en simple est l'une des rares récompenses qui lui manquent. On termine avec l'habit vert des immortels et comme une épée laser, pas mortelle, en cuir. C'est la tenue choisie par la philosophe Barbara Cassin pour son entrée à l'Académie française. 9e femme sous la coupole seulement depuis Marguerite Yourcenar en 1980. Installation suivie pour nous par Ilana Moriousef.
Plus d'une langue, c'est la devise qui figure sur l'épée de la nouvelle académicienne. Et dans le droit fil de son dictionnaire des intraduisibles, Barbara Cassin s'est attachée à défendre la richesse des langues et à dénoncer le formatage de la globalisation.
C'est très simple. Ni globiche, ni nationalisme. Nous voulons contribuer à fabriquer une Europe résistante qui refuse de s'en tenir à cette non-langue de pure communication qu'est le Global English. Mais nous nous opposons tout aussi fermement à la hiérarchie des langues et à leur prétention auto-proclamée à un génie supérieur. La singularité d'une langue, la force de son génie, la richesse de ses œuvres ne conduisent pas à la fermeture sur soi de cette langue ni du peuple qui la parle.
Rien de plus politique que parler, a rappelé la philosophe, et justement, elle s'est permis une incursion dans le débat sur la hausse des prix d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers.
On ne dira jamais assez l'importance, pour la France et pour le français, de la francophonie, des étudiants qui viennent étudier en France et en français. À cause de la hausse différentielle des droits d'inscription, j'en connais déjà quelques-uns cette année, qui vont bon gré mal gré parler anglais en Chine.
Heureusement, a conclu Barbara Cassin, le Conseil constitutionnel en a statué autrement. À l'Académie française, Stéphane Beaufils, Ilana Moriousef, France Inter.
Et puis on vient d'apprendre la mort de la légende du ballet Alicia Alonso, danseuse et chorégraphe cubaine. Elle avait 98 ans, seule latino-américaine de l'histoire à avoir été prima ballerina assoluta, titre symbolique accordé aux ballerines les plus exceptionnelles, nous dit-on, de leur génération. Alicia Alonso avait créé une école à part dans le monde du ballet, l'école cubaine. Les connaissances connaisseurs se souviennent de son long cou, de ses enjambées incroyables. Elle pouvait réaliser à 40 ans les 32 fouettés du lac des Cygnes. Et pourtant, elle avait un lourd handicap. Elle était aveugle quasiment depuis l'âge de 20 ans. Elle dansait dans sa tête, disait-elle, Alicia Alonso, la légende du ballet, décédée donc à 98 ans.
Merci beaucoup, Sébastien. On se retrouve évidemment demain.